et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Bonjour, ici Valérie Gaudreau. Vous aimez la littérature et le monde du livre? Chaque semaine, l'équipe d'Épilogue vous attend avec des entrevues, critiques et actualités sur la scène littéraire d'ici et d'ailleurs. Épilogue, dimanche midi, rediffusion mercredi 10h sur les ondes de CKIF.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 20 mars 2026. Le réseau Solidarité itinérance du Québec accueille avec inquiétude le budget déposé cette semaine que le ministre des Finances, Éric Girard, a qualifié de budget responsable. Il apparaît au réseau que celui-ci sera surtout responsable de nombreux maux de tête pour les organismes œuvrant auprès des plus démunis. Pour le RSCQ, dont fait partie le regroupement d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, il est grand temps d'assurer un financement pérenne et accru à la mission des organismes communautaires. Le porte-parole Éric Edstrom alerte que la situation ne cesse de se dégrader, alors qu'une augmentation du financement serait nécessaire pour répondre aux besoins déjà identifiés. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec constate que l'austérité s'accélère et que les services à la population pâtiront des mesures contenues dans le budget 2026-2027 du gouvernement caquiste. Pour le SCFP, en comprimant la croissance des portefeuilles sous l'inflation à 1,6%, le gouvernement est bel et bien dans une politique d'austérité qui vise une réduction de l'État. Les vagues de compression se poursuivront au cours des prochains mois et ne laisseront aucune marge de manœuvre pour répondre adéquatement aux besoins de la population, avertit le syndicat. L'organisme Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches s'est dit pour sa part soulagé de constater que le gouvernement du Québec maintient globalement ses investissements en culture et qu'il renonce aux coupures envisagées dans les sorties scolaires en milieu culturel. L'organisme se réjouit aussi de constater que des montants sont prévus pour la mise en œuvre des plans d'action issus des tables de concertation animées par le ministre Lacombe au cours des dernières années, notamment en matière de production audiovisuelle et de soutien aux médias. Selon la plus récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, un internaute du Québec sur deux, 52 % a déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle générative. Il s'agit d'une hausse de 19 points de pourcentage en un an. L'enquête intitulée « Intelligence artificielle générative » révèle également une intensification des usages. Plus de la moitié des personnes utilisatrices déclarent y recourir au moins une fois par semaine, comparativement à 38 % lors de l'enquête précédente. Selon le professeur Jean-François Lalonde, directeur scientifique adjoint de l'Institut Intelligence et données de l'Université Laval, cette hausse d'utilisation reflète un passage de la curiosité à l'usage courant. L'intelligence artificielle est désormais perçue comme un outil pratique pouvant être utilisé au quotidien. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Pour des raisons de commodité, je rassemblerai sous le chapitre d'une seule année ce qu'en réalité je fis et je vécu en deux. Comme je l'ai dit, mon projet n'est pas d'écrire une ode au découragement, mais de fanfaronner aussi gaiement que le coq chante clair, de bon matin, debout sur mon perchoir, ne serait-ce que pour tirer mes voisins de leur sommeil. Lorsque je pris mes quartiers dans les bois, c'est-à-dire lorsque je commençais à y passer mes nuits ainsi que mes jours, ce qui, incidemment, eut lieu le jour de l'indépendance, soit le 4 juillet 1845. La maison que j'y avais bâtie n'était pas encore prête pour l'hiver, n'offrant toujours qu'un abri contre la pluie, sans plâtre ni cheminée, avec ses murs de planches brutes marqués par les intempéries, laissant encore de nombreux jours qui rendraient les nuits fraîches. Le bois bien clair des poutres verticales, tout récemment taillées, ainsi que la porte et les embrasures de fenêtres rabotées de frais, donnaient à ma demeure un air propre et léger, notamment le matin, quand elle était saturée de rosée, de sorte que je m'imaginais qu'avant le midi, son bois exuderait quelques liqueurs sucrées. Dans mon imagination, elle conservait plus ou moins ce caractère auroral tout au long de la journée, et me rappelait par là une certaine maison de montagne que j'avais visitée l'année d'avant. C'était une cabane aérée et non plâtrée, parfaite pour accueillir un dieu vagabondant et où une déesse eût pu entrer avec sa traîne. Les vents qui soufflaient sur mon logis étaient de la même trempe que ceux qui balaient les crêtes montagneuses, porteurs des accents ébréchés, ou seul fragment céleste de la musique terrestre. Le vent du matin souffle à jamais, le poème de la création est ininterrompu, mais rares sont les oreilles qui le perçoivent. L'Olympe n'est rien d'autre en tout lieu que la surface même de notre monde.
Oh,
Alors, bienvenue à toute simplicité. On est la veille du printemps. Demain, c'est le printemps qui arrive. Aujourd'hui, on va parler de Thomas de... On va poursuivre, en fait, notre série sur Thomas de Conin qui nous a quittés là, il y a environ un mois. Avant ça, ben j'ai quelques lectures, quelque chose que quelques annonces à faire aussi. On va commencer par les lectures que j'ai faites dans le devoir. On a dans le devoir de lundi, Jürgen Habermas, l'éminent philosophe allemand n'est plus. C'est un philosophe contemporain, très connu en Allemagne, le philosophe allemand Jürgen Habermas, l'un des intellectuels les plus influents de sa génération, est décédé samedi à l'âge de 96 ans, ce qui a suscité une pluie d'hommages. Le chancelier Friedrich Merz, comparant l'action de sa pensée à celle d'un phare dans une mer déchaînée. Il est mort à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué l'agence France Presse. Une porte-parole de sa maison d'édition, Shunkam Verlag, se fondant sur des informations de sa famille. Jürgen Habermas a été impliqué dans tous les grands débats d'après-guerre et voyant en l'Europe le seul remède à la montée des nationalismes. Un article vraiment intéressant qui est dans le devoir de vendredi dernier, « Les tourbières de l'Arctique s'étendent ». Les tourbières de l'Arctique où des mousses poussent lentement, parfois depuis des millénaires, s'accumulant en un épais tapis spongieux, gorgé d'eau qui recouvre un sol gelé en permanence, sont en train de gagner du terrain selon une nouvelle étude. Cette étude, à laquelle ont contribué des scientifiques québécois, met en lumière la résilience des écosystèmes arctiques où le climat se réchauffe quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, mais aussi leur capacité salvatrice à séquestrer du carbone dans la tourbe. Les tourbières qui s'étendent changent la couleur du paysage. Actuellement, on voit un verdissement des régions nordiques, résume une autrice de l'étude, Michel Garneau, qui est professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste du carbone dans les milieux humides. Alors, ce qui est intéressant, on dit qu'en Arctique, les tourbières à pergélisol s'étendent sur une superficie cumulative plus grande que celle du Québec. Dans leur couche de tourbe, elles renferment des dizaines de milliards de tonnes de carbone. Les tourbières sont les écosystèmes terrestres les plus denses en carbone. En fait, ce sont des puits de carbone, les tourbières. Depuis le début des années 2000, des scientifiques nous avertissent des risques climatiques associés au dégel du pergélisol. Ils redoutent que des microbes décomposent la matière organique nouvellement accessible, notamment dans les tourbières, et libèrent ainsi du méthane, un puissant gaz à effet de serre. On appelle cette hypothèse « bombe de méthane ». Or, depuis les données accumulées depuis 20 ans, les données accumulées depuis 20 ans ne confirment pas cette hypothèse, affirme M. Fortier. Ce message est en train de virer de base, croit-il. Les spécialistes sont de plus en plus nombreux à montrer qu'en réalité, les tourbières à pergélisol sont des puits de carbone, c'est-à-dire qu'ils retirent du CO2 de l'atmosphère, souligne le professeur. Mais la question est loin d'être réglée. Plusieurs scientifiques reconnaissent que la croissance des tourbières est stimulée par le climat chaud, plus chaud, mais pensent que la décomposition est accélérée dans une plus grande mesure. La professeure Garneau ne sait pas encore de quel côté penche la balance pour l'ensemble de l'Arctique. Cela dit, elle est convaincue que les tourbières à sphingne ne sont pas propices à la décomposition. Cette mousse qui contient de la lignite, une molécule qui donne sa rigidité au bois, est très résistante aux microbes, affirme-t-elle. Certains de ces sites sur la côte nord en témoignent avec de la sphingne vieille de 8000 ans et presque intacte. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que la fameuse bombe méthane était un facteur inquiétant là, du point de vue des changements climatiques. On semble penser que finalement, il n'y en aura pas de bombe méthane. Alors, vraiment un article intéressant pour ceux que ça intéresse. C'était dans le devoir de vendredi dernier, à la page A8, dans une chronique environnement. C'était un article d'Alexis Riopel. Ensuite, quelques articles un peu rapides. Là, le coûteux pari de l'intelligence artificielle est dans le devoir de mardi. Cégep et université s'en servent pour faire de la recherche, détecter le plagiat et automatiser les tâches. Mais à quel prix? Dans l'article, on montre que, oui, les universités se servent de l'intelligence artificielle, mais qu'ils dépensent des fortunes pour pouvoir y avoir accès. Alors, on pose la question, est-ce que ça en vaut le coup? On dépense des très grandes sommes d'argent pour installer l'intelligence artificielle dans les universités, en tout cas. Si ça vous intéresse, dans le devoir de mardi. Dans le devoir d'aujourd'hui, un texte de Maïka Sundarji. Il en faut peu pour être heureux. Les Québécois de moins de 30 ans sont moins heureux que ceux âgés de 60 ans. En fait, elle écrit un article sur le dernier rapport mondial sur le bonheur qui vient d'être publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford. C'est publié à chaque année. En fin de compte, c'est un rapport, on pourrait dire, des Nations Unies. Et vous pouvez, il est accessible gratuitement. Alors, vous écrivez le rapport mondial sur le bonheur, World Happiness Report. Et puis, il y a beaucoup d'articles intéressants sur la qualité de vie. C'est des chercheurs là, qui publient ce rapport-là. Et on a aussi, comme à chaque année, un palmarès des pays les plus heureux. Là, on dit que la Finlande, c'est toujours les pays scandinaves qui sont dans les pays heureux, mais le Québec se classe assez bien avec cinquième. Si on l'avait, parce que c'est par pays, mais si le Québec était un pays, on serait cinquième au classement ex aequo avec la Suède. Les conditions de ce rapport publié annuellement depuis 2012 m'ont toujours paru peu sensé. Bien, ce qu'elle dit, c'est que, dans le fond, les pays égalitaires sont les plus heureux. Mais, elle pose des questions au niveau de la méthodologie. Il y a quand même il y a un côté subjectif un peu à mesurer le bonheur, mais quand même, c'est quand même intéressant. En tout cas, je vous le recommande, le rapport mondial sur le bonheur qui vient d'être publié, puis un petit compte-rendu avec une réflexion dans le devoir d'aujourd'hui. Aussi, dans le devoir, dans la fin de semaine, on parlait de la pièce « Que notre joie demeure », c'est inspiré du livre de Kev Lambert, puis une entrevue avec Anne Dorval. C'est rare que je parle de culture, mais je trouvais ça intéressant. C'est un peu en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Anne Dorval partage en outre avec son personnage la conviction selon laquelle la beauté est nécessaire à la vie humaine et qu'elle doit impérativement être accessible à tous. Celle-ci peut être débusquée dans les parcs publics, les jardins, les musées, mais également dans notre patrimoine bâti, envers lequel les Québécois pêchent par négligence, malheureusement, exprime la comédienne. Quand je vais en Europe, par exemple, comme ce sont de vieux pays, toutes les générations ont vu de la beauté. En se levant le matin, c'est de la beauté. C'est tout le temps de la beauté, donc on restaure. On fait aussi de nouveaux projets, mais on prend soin de ce qu'on a, parce qu'on sait que l'on ne peut plus le refaire. Il y a un rapport à la beauté qui est différent au nôtre, ça, du nôtre. Ça, j'y crois, moi aussi. Il faut faire attention de la façon qu'on se développe, qu'on bâtit nos villes, qu'on détruit le paysage et qu'on fait pas attention à notre patrimoine bâti. Et M. de Coninck a publié, c'est un de ses thèmes, la beauté, la dignité. Il a parlé de l'ignorance aussi, puis je vais vous en parler tantôt. Justement, une des dernières publications de M. de Coninck en 2018 qui s'intitule, c'est un manifeste, « Beauté oblige, écologie et dignité ». Dans les annonces, ce soir, il y a un café philo à la librairie La Liberté, si ça vous intéresse, si vous faites de la philosophie. On va en parler tantôt avec M. de Coninck, qu'est-ce que c'est faire de la philosophie. Aussi, on a le comité Simplicité volontaire organise c'est un cercle de discussion au Centre Frédéric Bach le 14 avril prochain sur Aristote et l'écologie. Alors, si vous voulez en connaître un peu plus sur Aristote et son lien avec l'écologie, vous êtes bienvenus. C'est gratuit. Au Centre Frédéric Bach le 14 avril prochain. Si vous voulez avoir du détail sur l'activité, ça devrait être bientôt là, détaillé sur le site des Amis de la Terre. Je vous ai lu un texte au début de l'émission là, de Taureau, Henri-David Taureau. Et j'apprenais dernièrement que, c'est tiré de son livre « Walden ». Et on a souvent dit « Walden » ou « La vie dans les bois ». Puis il y avait une confusion là-dedans. C'est qu'au début, le titre du livre devait être « La vie dans les bois ». Puis là, Taureau a demandé de rajouter « Walden » ou « La vie dans les bois ». C'était les éditeurs qui voulaient ça parce qu'ils trouvaient que ça ne voulait pas dire grand-chose « Walden ». Mais « La vie dans les bois » porte à confusion. Et le vrai titre du livre, c'est Walden, et La vie dans les bois ne devrait pas être là. Puis on continue à le revoir, La vie dans les bois-là. En tout cas, c'est une petite remarque que je vous fais à partir d'un livre que j'ai vu dernièrement, que je suis en train de lire. Je vais vous en parler, un livre sur Taureau, et qui faisait remarquer justement que le titre du livre, c'est Walden et pas Walden. Ou La vie dans les bois. Alors, on prend une pause musicale et puis au retour, on va parler de Thomas de Conin.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just what you sow.
just what you sow.
C'était Lou Reed, Perfect Day. Avant ça, j'avais passé Richard Séguin dans Les Bois. Perfect Day, c'est, je l'aime beaucoup cette chanson-là. Et c'était la chanson, on pourrait dire, thématique du film Perfect Day de Wim Wenders. C'est un beau film que je vous recommande. C'est un film sur la simplicité volontaire, on pourrait dire. Et quand je parlais de beauté, je ne sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, le film se passe à Tokyo et ça nous fait voir que c'est vraiment une belle ville, Tokyo. Et j'étais un peu surpris d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Dans le film, on voit le personnage principal qui est souvent à vélo ou en train de marcher sans côtoyer de voiture. En tout cas, il y a plein de beaux de parcs puis de temples. En tout cas, ça fait une différence. Une ville, une belle ville, ça fait des milieux de vie très riche, mais très beau. Et je trouve que si vous voulez voir un film qui montre comment est-ce que c'est qu'on peut bien vivre en ville, je vous recommande ce film-là, Perfect Days ou Les Jours Parfaits de Wim Wenders, qui est un grand cinéaste. Et, on considère là, que plusieurs considèrent que ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Et l'acteur est très, très bon. L'acteur principal, qui est un Japonais, que je ne me souviens plus de son nom, qui a gagné à Cannes la Palme d'Or pour le meilleur acteur. Alors, voilà. OK. Alors, aujourd'hui, je poursuis avec Thomas de Coninck, comme je vous disais, qui est le philosophe Thomas de Coninck, professeur de philosophie à l'Université Laval pendant, je pense, 60 ans, qui avait déjà, qu'on avait eu comme... il était venu participer à une activité gratuitement là, du groupe de Saint-Pitié volontaire il y a plusieurs années, moins une dizaine d'années au minimum, qui nous avait fait une présentation sur la beauté, justement. Et... là, aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un petit livre que je vous recommande vraiment. C'est pour vous, si vous voulez vous initier à la philosophie, c'est vraiment un beau livre, bien fait. Le titre, c'est « À quoi sert la philosophie? » C'est aux éditions des presses de l'Université Laval. Ça date de 2015. Alors, je vais vous lire aujourd'hui là, quelques extraits de ce livre. Chercher à savoir si l'on doit ou non faire de la philosophie, c'est déjà philosophie, puisque c'est déjà philosopher, puisque c'est recherché. On est vite obligé, en outre, de constater que même argumenter contre la philosophie, c'est philosopher au sens le plus propre du terme, comme l'a fait observer très tôt Aristote. Car vous argumentez et vous prétendez donc à quelque vérité. Autrement, pourquoi argumenter? Vous énoncez alors une opinion. Après examen et considération, si sommairement que ce soit en certains cas, et vous prétendez à des vues plus justes qui vous autorisent à déclarer les vues opposées ou fausses. Les vues opposées fausses, excusez. Vous partagez dès lors avec votre opposant au moins un trait commun, le plus vital du reste, à savoir le recours à la vérité ou à un semblant de vérité, si vous êtes un sophiste, touchant vos propres énoncés et positions. Celle ou celui qui prétendrait que rien n'a d'importance, en tout cas pas de valeur morale ni de vérité, doit forcément se réclamer d'une instance qui le dépasse. Rien n'est vrai, tout est faux, tout est relatif, sont autant d'affirmations absolues qui s'incluent elles-mêmes et s'autodétruisent. Nos visions, quelles qu'elles soient, présupposent un horizon au sein duquel la connaissance et l'action sont possibles. Cette recherche d'une visée plus juste, d'une prise de conscience plus claire du tout, que trahissent même nos contradictions, les combattants partagent forcément un but commun. On retrouve là, sans doute, le sens originel du dialogue et de la dialectique, comme devant conduire à la Sophia, la sagesse. Il s'ensuit que, dans tous les cas, il faut philosopher, selon Aristote. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher, ira jusqu'à dire Pascal. Bref, on ne peut pas ne pas faire de la philosophie, si indigente soit-elle parfois, mais à supposer qu'elle ne soit pas indigente, à quoi peut-elle servir au juste, spécialement dans le monde actuel? Telle est la question que je pose à présent. Nous verrons que la philosophie authentique est en réalité de plus en plus indispensable et que les tâches qu'elle est appelée à honorer sont immenses. Alors, il commence par parler de l'éveil. Il nous faut réentendre à neuf, en premier lieu, la grande voix de Socrate déclarant aux Athéniens qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue et que s'ils s'impatientent comme des gens ensommeillés qu'on réveille et le mettent à mort, ils risquent de passer leur vie à dormir à moins qu'il ne leur soit donné quelqu'un d'autre qui, comme lui, ne cessera de les réveiller. Alors, ça vient de l'apologie de Socrate, de Platon. Socrate, c'était le maître à penser de M. de Coninck, sa principale inspiration. Et Socrate, c'est le fondement de la philosophie. Et ce qui est fou, c'est que Socrate n'a rien écrit dans sa vie. Tout ce qu'on a de Socrate, c'est d'autres qui ont écrit, qui ont rapporté ses propos, surtout Platon, mais d'autres aussi. Et Socrate ne croyait d'ailleurs pas à l'écriture. Il trouvait que la philosophie, ça se fait seulement de vive voix, en parlant avec les autres directement. Comme le dira Merleau-Ponty, pour retrouver la vocation entière du philosophe, il faut se rappeler que même les philosophes auteurs que nous lisons et que nous sommes n'ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n'enseignait pas, au moins dans les chaires d'État, qui s'adressait à ceux qu'il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l'opinion et les pouvoirs. Il faut se rappeler Socrate. Le philosophe est l'homme qui s'éveille et qui parle. Dans les termes d'Alain, les marchands de sommeil de ce temps-là tuèrent Socrate, mais Socrate n'est point mort. Partout où des hommes libres discutent, Socrate vient s'asseoir en souriant, le doigt sur la bouche. Socrate n'est pas mort, Socrate n'est point vieux. On sait que dans justement l'apologie de Socrate, ça raconte le procès de Socrate parce que les dirigeants athéniens n'aimaient pas Socrate. Ils disaient qu'il se trouvait à corrompre la jeunesse parce que Socrate, il véhiculait ça, le doute socratique. Ce qu'il disait, c'est que les humains, fondamentalement, sont ignorants et qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est la nature humaine, mais qu'on doit être d'abord conscient de cette ignorance, donc ne pas ignorer notre propre ignorance. Mais ensuite de ça, bien, on doit s'efforcer de la réduire. Alors, ce qu'il dit, c'est de là qu'il encourageait les gens qui le suivaient à faire de la philosophie, qui est, la philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, aimer apprendre, aimer dissiper notre ignorance, qu'on ne pourra jamais fondamentalement, totalement dissiper. Héraclite, autre grand philosophe que d'ailleurs Socrate avait un grand respect, qui, lui, vivait, était plus vieux, c'était avant Socrate, Héraclite. C'est un pré-socratique, on dit. Héraclite, quant à lui, reprochait déjà à la plupart des humains de dormir en plein jour, alors même qu'ils semblent éveillés. Ce qu'ils font éveiller leur échappe, déclare le fragment 1. Fragment 1, c'est des fragments qu'on a trouvés des propos d'Héraclite. On n'a pas d'œuvre complète, c'est des fragments qui ont été recueillis. Alors on dit, ce qu'ils font éveiller leur échappe, déclare le fragment 1. Tout comme leur échappe, ce qu'ils oublient en dormant. Le fragment 89 ajoute la précision suivante. Il y a pour les éveillés un monde unique et commun, mais chacun des endormis se détourne dans un monde particulier. Marcel Conche est un philosophe contemporain qui est décédé il y a un an, je crois, à l'âge de 100 ans. Et Marcel Conche a écrit, entre autres, là, sur Héraclite. Alors, Marcel Conche commente excellemment « Les rêves, individuels ou collectifs, nous tiennent enfermés dans des mondes particuliers, effets du sommeil, au propre et au figuré, dans l'ignorance du vrai monde. » Le même pour tous. Le rêveur tombe en particulier dans l'inconscience à l'égard de lui-même. Il rêve dans l'oubli de lui-même et, tout en étant vivant, il est comme mort puisqu'il n'est pas le sujet de sa vie. En sa propre exhortation à la philosophie, le protreptique Aristote devait faire valoir que la folie, le sommeil et la mort sont les trois contraires de la vie et de la philosophie à la fois, car c'est celui qui est éveillé, qui vit véritablement et au sens propre. Rémi Brague résume avec bonheur l'argument qu'en tire Aristote. Si l'éveil est la forme supérieure de la vie, et si être éveillé consiste à être la plupart du temps dans le vrai, la vie sera souverainement elle-même lorsqu'elle sera au plus haut point éveillée dans le savoir scientifique. Nous pouvons donc dire que la philosophie, que le philosophe est le vivant le plus authentiquement vivant. Philosophie, c'est être bien réveillé, redira Novaliste. Aristote accordait manifestement à Héraclite que le sage est l'éveillé par excellence, selon une remarque célèbre de sa métaphysique. Face à ce qui est en soi le plus évident, les yeux de notre intelligence se comparent de prime abord à ceux des oiseaux de nuit en plein jour. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on revient avec... on va poursuivre avec M. de Coninck sur à quoi sert la philosophie.
Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive. Peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
C'était Fred Pellerin, la belle chanson de, j'oublie son nom, qui est décédé, chansonnier qui est décédé dernièrement, que je vais vous dire le nom que j'ai oublié. Ben oui, Jacques Michel. Alors, la chanson de Jacques Michel, Amène-toi chez nous, très belle chanson interprétée par Fred Pellerin. Alors, on revient avec, avec Thomas de Coninck. Je vous lis quelques extraits de son petit livre qu'il a publié. C'est dans les dernières publications de M. de Coninck, qui date de 2015. À quoi sert la philosophie? Alors, on revient avec Héraclite. Héraclite, pour revenir à lui, aimait dire que ce qu'il avait trouvé, tous peuvent le trouver en eux-mêmes, car je me suis cherché moi-même. Plutarque, de qui nous tenons ce dernier fragment, associe ce propos à la maxime delphique, Gnoti Sauton, connais-toi toi-même, qui a donné lieu à la question socratique, qu'est-ce que l'être humain, considéré par Platon comme la question même de la philosophie. Selon le corpus hippocratique, elle est aussi la question primordiale de la médecine. On y lit en effet qu'il n'est pas possible de savoir la médecine quand on ne sait pas ce qu'est l'homme. Personne ne souhaiterait vraiment dormir tout le temps. Personne ne souhaiterait non plus se trouver constamment hors de son bon sens, dément ou sot. Peu sans doute aussi bien souhaiteraient au moins consciemment être ce mort vivant dont parlait Einstein. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. Ça, M. de Coninck, il revient souvent que le fondement de la philosophie, c'est l'étonnement. Il faut savoir, c'est là que la philosophie commence, l'étonnement. Et il faut savoir s'étonner devant les choses, comme les enfants. Désirait-on vraiment jamais, consciemment encore, une vie passée à fuir sa propre vie, à se fuir soi-même? On demandait à un voyageur qui avait vu beaucoup de pays et de nations et plusieurs continents, quelle est la qualité qu'il avait rencontrée chez les hommes. Il répondit, une certaine propension à la paresse. C'est Nietzsche, une citation de Nietzsche. C'est elle, la paresse, qui empêche les humains de sentir leur vie grâce à la dispersion constante de leurs pensées. La dispersion qui éparpille l'individu à tout vent donne un aspect insolite aux questions pourtant les plus indispensables à une vie adulte libre. Pourquoi est-ce que je vis? Qu'ai-je à apprendre de la vie? Penser à soi et aux autres naturellement, en ce sens, est, à vrai dire, le défi à la fois le plus grand et le plus ardu. Un workaholic peut bien être paresseux à ce point de vue. Il faut cependant, pour sortir de cette torpeur, un choc, un défi, par exemple, la prise de conscience personnelle, concrète, de l'imminence de la mort pour les êtres qui nous sont chers comme pour nous-mêmes, ou encore l'expérience de l'amour qui transfigure tout, du tout au tout, le regard humain sur le monde et la vie. Il faut en un mot, une forme ou l'autre d'étonnement, la découverte de notre ignorance face à quantité de questions pourtant vitales, entre toutes souvent, jointes au fort désir d'en sortir. Alors, on revient avec l'idée d'ignorance. Même les médias s'avèrent transparents pour les yeux, sachant interroger. Les choses perdent alors l'aspect ordinaire que leur prête la familiarité et ce très grand vice, le vice de la banalité. Citation de Baudelaire. Le point le plus élevé que l'homme puisse atteindre, constatait Goethe en ses conversations avec Eckermann, est l'étonnement. Lorsque le phénomène originaire suscite en lui l'étonnement, il doit s'estimer heureux. Rien de plus grand ne peut lui être concédé. Il ne saurait chercher au-delà. « J'existe pour m'étonner », conclut même son poème « Parabase ». Ces témoignages de grands poètes sont tout à fait pertinents, car dans les mythes des mythologies ou dans ceux que crient les poètes, l'imagination a une capacité extraordinaire d'éveil, ainsi que l'a observé C.S. Lewis. Elle nous touche au plus vif, nous atteint à un niveau plus profond que nos pensées ou même nos passions, trouble les certitudes les plus enracinées, fait reposer toutes les questions et, en général, arrive à nous réveiller plus que ne le sommes jamais. L'histoire authentique de la pensée ne fut jamais, à vrai dire, la transmission d'un savoir tout à fait, mais bien celle de l'étonnement fondateur dont les anciens Grecs ont fourni l'exemple inégalé. Vous autres Grecs êtes toujours des ancêtres. Vieux, un Grec ne peut l'être. Jeunes, vous l'êtes tous par l'âme, avance le prêtre égyptien du Timée de Platon. Il n'empêche qu'un rapprochement s'impose ici avec la sagesse chinoise, en particulier celle liée au Tao Te Ching, où Lao Tzu observe que le plus tendre en ce monde l'emporte à la longue sur qui est le plus dur. À cela, je reconnais l'avantage du non-agir. Il y a une évidence dont on ne tient pas assez compte, nous fait-il voir, que le faible l'emporte sur le fort et le souple sur le dur, tout le monde le sait, mais il n'y a personne qui le mette en pratique. L'exemple par excellence de cette vérité est justement l'enfant nouveau-né, qui est riche de virtualité et de force à venir, là où l'adulte, dans la force de l'âge, ne peut ensuite que décliner. Comme l'explique fort bien Marcel Conche, la force du nouveau-né ne se fera pas au premier abord. Elle est spirituelle, mais l'emporte sur la force matérielle. Tel est au reste cet émerveillement que l'on entrevoit dans le regard de l'enfant lumineux par excellence, qui voit bien le serpent boa digérant un éléphant, là où l'adulte endurci ne voit qu'un chapeau, le mouton dans le simple dessin d'une caisse. Là, il fait référence au Petit Prince. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Lit-on dès la seconde page du Petit Prince, Saint-Exupéry suggère ainsi que le regard de l'enfant pressant déjà le visage plus profond de la réalité. Il ne dit pas que son regard se porte vers une autre réalité, dans une autre direction. C'est bien au contraire de ce monde-ci qu'il s'agit d'abord, de ce que nous voyons de nos yeux et pouvons toucher de nos mains, sous l'emprise d'une rectitude politique ou l'autre, d'un attachement étroit à l'immédiat comme à une valeur ultime ou d'un affairement perpétuel. Chacun, chacune risque de s'emmurer dans une quotidienneté où tout va de soi. Et pourtant, l'existence elle-même va-t-elle de soi? Le fait de voir ou d'entendre, d'imaginer et de penser, d'aimer, vont-ils de soi? Rien ne va de soi ni ne peut aller de soi qui ose réfléchir. Le monde où nous sommes est extraordinaire, extraordinairement beau, à vrai dire, et l'humain encore plus, ainsi que ne cesse de le faire pressentir à neuf les génies. Il est tout à fait d'un philosophe ce sentiment. S'étonner, la philosophie n'a point d'autre origine, ni lit-on dans le Thé et Tête où Platon énonce expressément ce qui deviendra un lieu commun. Heidegger marque un point majeur à ce propos. Le pathos de l'étonnement ne se tient pas tout simplement au début de la philosophie, comme par exemple le fait de se laver les mains précède l'intervention chirurgicale. L'étonnement porte et régit d'un bout à l'autre de la philosophie. À la suite de Platon, Aristote redira que c'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient les premières à l'esprit, puis s'avançant peu à peu, ils étendirent leur exploration à des problèmes plus importants. Or, apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. Dans le même sens, Thomas de Nagel décrit aujourd'hui avec bonheur l'esprit philosophique comme étant « the essential capacity to be mystified by the utterly familiar ». C'est la capacité essentielle d'être mystifié par l'extrêmement familier. La capacité essentielle d'être mystifié par ce qui est totalement familier. Alors, on prend une pause musicale, puis on va compléter, conclure l'émission.
Reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent toutes fraternelles et amicales loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille,
devienne unique et salutaire pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
Alors, c'est Jean-Marc Aurel de son album Je cours après la lune. Et c'était la pièce Fruits et mystères. Alors, pour terminer, je vais vous lire. Je vous ai lu des extraits de À quoi sert la philosophie de Coninck aux éditions des Presses Université Laval 2015. Et dans ses dernières publications, en tout cas dans les dernières choses qu'il a publiées, c'est un manifeste qui s'intitule « Beauté oblige, écologie et dignité. La crise écologique et la nouvelle ignorance. Sommes-nous suffisamment conscients de la détérioration sans précédent de l'état de nos mythes, de notre maison commune, fragilisée par les perturbations climatiques et de la menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, dont les conséquences entraîne l'insécurité, les mouvements de réfugiés, les pertes, des pertes et des préjudices définis et qui constituent un sujet de préoccupation pour l'humanité toute entière. » Je vais un peu plus loin, qui nous parle de beauté. Il dit « La beauté qui nous est confiée. Il y va de la beauté du monde visible dont la reconnaissance préserve la possibilité de l'émerveillement devant la nature. » Alors, tous les mêmes thématiques, l'ignorance, l'émerveillement. La découverte de sa fabuleuse organisation, source de joie universelle, en tout temps et en tout lieu, que manifeste le processus immémorial de la civilisation, inspirant l'art et la créativité, les sciences et les cultures. La recherche de cette beauté témoigne de l'appartenance de l'être humain à ce monde dont il se réjouit, mais aussi de sa capacité de servir un autre type de beauté, la qualité de vie des personnes, leur adaptation à l'environnement, la rencontre et l'aide mutuelle, en intégrant cette beauté jusqu'à l'urbanisme et l'architecture, ce que je vous parlais avec Mme Dorval tantôt, sans parler de son désir de voir au-delà et de trouver du sens à l'existence. Enfin, elle ouvre le regard sur la nature non exploitée qui sauve l'équilibre de la planète. Contrairement à la conception étroitement utilitariste de l'exploitation qui réduit l'humanité et l'environnement au statut de moyen. Alors, c'est comme ça qu'on termine l'émission. C'était des extraits de livres de Thomas de Coninck, le philosophe qui nous a quittés dernièrement. D'ailleurs, je vous parlais du Petit Prince. On en avait parlé il y a quelques semaines avec Jean Désy, il y a deux semaines, qui a bien connu Thomas de Coninck, d'ailleurs, qui a dirigé sa thèse. Et Thomas de Coninck avait, quand il était enfant, joué avec Antoine de Saint-Exupéry.